après, deux ans après, les Spurs gagnent un titre. Donc, c'est les circonstances du football. Mais par rapport aux Trey Lions, ça, c'est pas que Harry Kane, hein. C'est l'histoire du football anglais.
Du monde arrive en 2020.
Rooney, pareil. Lampard, pareil.
Lampard, dans les années 2000, etc.
Depuis les années 90.
C'est pas le statut de Rooney qui va influencer sur le niveau de jeu. Il est en train de rentrer dans un niveau qui est très, très intéressant. Moi, pour l'année prochaine et tout. Et pour cette Coupe du Monde des clubs, il est déjà là, il est bien présent. Mais quand même, il y a un effectif au Bayern Munich. Gnabry, Olise, bon, Coman, il est blessé. Goretzka, Kimmich, Taupe Mekano, Laimer, Stanisic, Pavlovic sur le banc, le Roi Sané encore.
Mais
Nizia,
on va revenir. Concernant le Paris Saint-Germain et aussi les Bavarois. Juste après la pause, on n'a plus le temps, Moha. On va marquer la courte pause et on va revenir, Moha. Enchaîne rapide, Yoga Bonito, à de suite.
Time Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
20h17, vous êtes à l'écoute de Beurre FM, chers auditrices et auditeurs. On est toujours ensemble avec notre Karim, Aris, Moha et sans oublier Wahé. Bah allez, de suite, on rejoint Karim et ses fameuses coupes.
Les scoops de Karim sur Beurre FM.
Bonsoir les amis, on est le mercredi 2 juillet 2025 et c'est les scoops de Karim. Allez, on commence avec une page rugby, avec une page tennis. Le tout premier hôtel à thème Roland Garros au Brésil, dans le cadre des RG Brasilian Junior Series, nous avons transformé le Pullman, Sao Paulo, Ibiriquera, en un véritable temple de tennis. Le hall, le restaurant, le bar, les chambres ont été repensés avec des éléments graphiques emblématiques de Roland Garros et des documents d'archives offrant aux clients des séjours inoubliables, mettant une fois de plus en valeur notre vision de l'hospitalité augmentée. Qu'est-ce que vous en pensez des hôtels comme ça? Il y a beaucoup d'hôtels qui se mettent à la page du sport.
Ah ben ça, c'est assez cool, vraiment, parce que c'est le pays qui se porte bien. On va le dire comme ça. Non, mais c'est vrai, Karim.
Mais bien sûr,
pas que dans le tennis. Oui, pas que dans le tennis, ils ont tout, quoi. Ouais, c'est la
front touch.
Alors, Wahib, pour toi, avant de dérouler.
Pour moi, c'est un aspect commercial, tout ça. Et puis, bon, bah pour Roland Garros, pas besoin de légitimité. Voilà, je pense que mondialement, ils sont déjà très, très implantés. Donc, commercial, intéressant. Un aspect, le Brésil, qui n'est pas un sport énorme de tennis, hein, mais qui s'implante, voilà, dans un endroit où tu peux passer de super vacances avec un climat incroyable. Donc, plutôt commercial, mais intéressant.
Sans transition, page rugby, les amis. 4 tricolores dans l'équipe type du tournoi des 6 Nations 2025, côté féminine. Morgane Bourgeois, Pauline Bourdon, Sensus, Manae Feuleux et Tiani Feuleux aussi. Les deux sœurs ont été dans l'équipe type de ce tournoi destination, gagné par l'Angleterre et qui crée encore une fois le grand chelem. Sans transition, page football, Janine Fontino veut organiser un match en la mémoire du pape François. Est-ce que vous avez un mot à dire, s'il vous plaît, les amis?
Ben voilà, il était pape. Après, je sais pas si. Oui, après, bon.
Il était le pape
grand
qui aimait
amoureux.
Beaucoup
Argentine. Grand amoureux de football. Supporter aussi.
Moi, je pense que Gianni Infantino devrait arrêter d'émettre des idées parce que souvent.
Ah oui,
parce que, ouais, on est fatigué. Ces idées sont fatigantes pour nous et pour les joueurs, j'ai l'impression. Donc, il veut tout le temps organiser des trucs. Je pense que là, on n'est pas trop dans l'idée d'organiser. Je pense qu'il faudrait désorganiser plutôt.
Ah, désorganiser. Et ben là, ouais. Là, déjà, c'est tout qui est désorganisé, notamment nous, chez nous, dans le football.
Ouais, nous, par contre,
on va revenir, vas-y, on va voir s'il a l'info, Karim, parce qu'on va, essayer
c'est
de le titiller.
Entre Lens et l'équipementier Adidas. Il s'agit d'un deal historique pour Lens qui intégrera dès 2026 le top 5 des plus gros contrats d'équipement maillot de la Ligue 1. Nice, de son côté, signe avec Kappa. Un petit mot, les amis, sur les équipements.
J'ai vu le maillot de Kappa. Alors, bon, pour revenir sur l'aspect commercial que Kappa est en train de diffuser, alors, avec Versailles, Venise aussi, j'avais regardé un reportage sur Venise.
Alors, bon maillot,
en fait, Kappa est revenu il y a 5 ans, sur le marché du football, mais avec une stratégie totalement différente, de mélanger le high school et vintage au maillot. Donc, tu le vois, par exemple, on l'a vu avec la Tunisie, qui a des maillots super beaux avec l'aigle, vraiment, ce sont le maillot de Venise, par exemple, qui avec les logos vénitiens, les fonds en décor. Donc, pour moi, Kappa a un coup à jouer parce que ses créateurs se concentrent vraiment sur l'aspect stylistique de chaque maillot. Quand tu regardes, par exemple, Adidas, qui a des gros contrats, qui a sa légitimité financière, Kappa est plus dans la créativité et apporte aux consommateurs, à ceux qui aiment les maillots, quelque chose d'unique, en fait.
On continue, Julen Lopetegui, celui qui a entraîné le FC Lopetegui. Porto, notamment signera un contrat de 2 ans avec l'équipe nationale du Qatar. Malgré quelques contacts avec Christophe Galtier, c'est plutôt le Qatar a choisi Julen Lopetegui. Par contre, Christophe Galtier, lui, est en instance d'arriver en Arabie Saoudite chez le club de Neom. Vous avez un mot, parce qu'on entend beaucoup parler du projet Neom.
Ben, Neom.
Et du club de football Neom en Arabie Saoudite.
La ville futuriste, je crois. Moi, j'entends parler
oui,
sur ça.
Bilal.
Hein. Ouais, on parle bien. Les Avengers là-bas, il paraît. C'est vrai, c'est pas moi qui le dis. Hein.
On parle bien de Lopetegui qui a entraîné le Real.
Exactement.
Qui est passé par Séville, qui a gagné l'Europa League. Porto aussi, c'est un très bon entraîneur avec un style espagnol qui a essayé d'imposer sa vision de la possession espagnole qui était parfois un peu trop stérile aussi avec la Roja. Et c'était un peu problématique. Mais c'est un très bon entraîneur avec des idées qui n'a pas eu assez de temps, je trouve, pour s'imposer notamment au Real. Parce qu'il y a aussi les résultats tout de suite et l'exigence du.
Puis il n'est pas arrivé au bon moment aussi. Hein. Il n'est pas arrivé au meilleur moment aussi.
Il n'est pas arrivé au meilleur moment également. Mais. Voilà, le Real n'a pas accepté ça et mais c'est un très bon entraîneur qui avait fait du bon boulot à Séville. Donc à voir, bah après évidemment là il est plutôt en fin de carrière, Christophe Galtier aussi. Mm-hmm. C'est des entraîneurs qui bon voilà, essayent de se relancer, enfin qui ont des affaires.
D'ailleurs ce que je te dis en fait par rapport à l'Arabie Saoudite, alors, tu me parlais de l'entraîneur du Qatar. Ouais. Alors il va y avoir une dernière journée pour les qualifications Coupe du monde asiatique qui vont être très intéressantes parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas encore qualifiés. 48 équipes. Mais pour revenir sur ces actions parce qu'il faudra aussi parler des pays arabes de football asiatique pour la qualification.
La Coupe arabe aussi qui va arriver.
La Coupe arabe, mais vraiment pour revenir sur cette Coupe du Monde, cette qualification de Coupe du Monde qui a été intense. La Palestine qui s'est pas qualifiée à quelques journées, la Jordanie qui s'accroche, l'Irak qui s'est battu, on a eu le Koweït aussi qui s'est battu. Ouais. Donc ça a été intéressant de voir ça. Et l'Arabie Saoudite, du coup, a une campagne de qualification qui a été très décevante et qui n'est pas encore sûre de pouvoir garder son sélectionneur. Et c'est encore en instant, ça c'est une information que je vous dis. Alors, c'est indiscrétion parce que l'Arabie Saoudite va devoir absolument, de par son émergence par au soft power, se qualifier. Il y a une grosse pression côté fédération.
Sans transition, page fléchette. Andy Jenkins, ex-star des fléchettes, suspendu 11 ans pour match truqué. S'il vous plaît, les amis, c'est un sujet. Les joueurs professionnels qui émettent des paris sportifs et qui après, c'est pour prendre la main dans le sac. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce qu'on peut être professionnel et avoir cette même l'idée de pouvoir faire un pari sportif?
Ouais, il y a déjà eu un sur des affaires.
Pas le problème. Dans le monde du sport, actuellement en NBA, il y a justement un joueur qui allait signer son contrat et justement ça s'est pas fait. Il s'appelle Malik Beasley. Justement il y a une investigation qui est en cours justement parce qu'il aurait parié sur des matchs l'an dernier ou s'il y a 2 ans, je me trompe pas, justement il y a eu un joueur pour la même situation qui serait banni en fait de l'NBA. Et ça c'est quand même une sanction qui est assez lourde. Il y a quelques années c'était aussi Tonali, d'ailleurs c'est peut-être pas fini, mais il y avait Tonali justement.
Il y avait Paqueta
qui avait une investigation aussi.
C'est encore un an.
Et il y avait aussi Ivan Tonnet si je me trompe pas. Ivan Tonnet aussi qui est descendu. Les sportifs ne peuvent pas parier. Et après bon, peut-être que certains c'est des addictions, mais malheureusement pour eux, en tout cas, ils ne peuvent pas parier.
Tyson Fury voudrait sortir de sa retraite, Bilal, pour venir réaffronter à nouveau Alexander Usyk. Mais ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais lui, c'est un démon, c'est pas possible.
Et hier soir, du côté d'Astana, il est très très loin, Moussa, avec sa magnifique chronique, cette longue chronique, tout comme Aurélien qui arrive dans ce studio. Eh ben, on en a parlé parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il arrête, il reprend. Il va reprendre et on aura encore une revanche. Oui, une réaction peut-être avec Harris ou encore Weheb.
C'est de la boxe business.
Business selon toi.
C'est pas si intéressant que ça. Ouais. On découvre pas des combattants.
C'est plus la boxe que l'on a connue avec Aurélien Duhart dans les années. ça nous faisait plaisir.
Franchement, c'est pas ça.
Des pains de surpain, ça cassait des têtes, des œufs aussi, de tout quoi.
C'est pas surprenant, on aurait pu voir venir de façon.
C'est toujours pour une histoire. Je vais un peu bondir parce que il a pas totalement tort le Wahib, parce que c'est toujours une question de je vais pas dire football business mais boxe business, encore une fois la réhausse du contrat. Non mais c'est vrai. Et tu verras, il y aura encore cette revanche et tu verras encore que on va s'affoler devant
on
va regarder.
On continue les scoops bleus carrément ce mercredi 2 juillet 2025 avec une page insolite. Grande tradition espagnole, la consommation de pipas et graines de tournesol dans les stades espagnols. Le ne serait plus possible à FC. J'ai pensé à toi. Parce que les Sevilla, les Pipas, le leader de la deuxième division espagnole l'a annoncé pour des raisons d'hygiène. Parce que les gens, ils respectent rien une fois. C'est fou quand même. Alors, on continue sans transition. Un jeune supporter de Manchester United s'est lancé un défi fou. Ne pas se couper les cheveux tant que son club Manchester United n'a pas parvenu à enchaîner 5 victoires.
Oh bah ça va.
Moi je m'attendais à pire. Mais...
Non, moi aussi ça, je m'attendais à pire.
Ah ouais, 5 victoires. Ah,
il n'est pas prêt de se couper les cheveux parce que le championnat ne reprend pas tout de suite.
Ouais,
il va déjà prendre 2 mois, mois de longueur.
Attention,
information Premier League. Manchester United, il va affronter les gros du championnat. Je crois sur les 10 premières journées. Je crois que c'est les 5 premières journées où ils vont affronter pratiquement tous les gros. Donc Manchester United, lui, il va garder longtemps ses cheveux. Ça va être drôle.
Le mieux pour en fait ses cheveux, ça aurait été même qu'il dise tant qu'il gagne pas un titre. Parce que je pense qu'ils vont avoir plus de mal à gagner 5 matchs que gagner un titre.
Ça va être chaud.
On poursuit, on va terminer. Oui, Harris. United, quand même, avec Amorim, c'est la 3ème saison. Il peut y avoir un petit truc quand même.
Bah, 17ème de première ligue,
il peut y avoir une remontée. Arteta, ça a pris du temps aussi.
C'est vrai,
ils n'étaient pas 17ème à ce niveau-là.
Ils n'étaient pas 17ème de première ligue, Harris.
On ne sait jamais. Oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord.
Surtout qu'Arsenal, c'est. Arsenal, parce qu'il faut parler du contexte. On aime bien comparer dans le football et toujours le contexte.
Oui.
Et attention, quand Arsenal reprend Arteta, Arsenal rate le Big Four et la Ligue des Champions de 2 à 3 journées où il se casse les dents contre des gros à Anfield ou des choses comme ça. Manchester United, c'est plus structurel, c'est plus institutionnel, c'est plus profond que ça.
Non mais le but c'est pas d'être dans le top 5.
On poursuit carré, mais on va terminer.
La Légion X, le groupe des supporters ultra du Paris FC, qui ne reconnaissait pas le club, tout juste promu en Ligue 1, a été dissous en raison de son implication dans des violences et des dégradations, selon un décret publié au journal officiel Bilal.
On veut pas de violence dans les stades
et
hors des stades.
Exactement ça.
Tant mieux, faut arrêter avec cette violence là. Voilà.
Sans transition, on continue avec une page athlétisme. Après son record sur 110 mètres. Tout près des 13 secondes, Sacha Zoya a réussi le meilleur chrono de sa carrière sur 100 mètres au Grand Slam Trek de Miami.
Pour revenir à Sacha Zoya qui était l'étoile montante de l'athlétisme, il y avait eu des discussions entre l'Australie, la France pour les contrats, pour la représentativité de l'athlète en termes de nationalité sportive. Sacha Zoya a fait une campagne décevante lors des Jeux Olympiques. Il s'est pas qualifié pour la finale, très décevant. Il aurait pu aller chercher au moins une finale pour parier. Lui qui avait un gros contrat avec EDF et qui avait une grosse pression derrière ses épaules, ce manque là même si il bat un record sur le des championnats qui sont pas une intensité énorme, parce qu'on le dit toujours dans l'athlétisme, tu peux finir dans les premiers, c'est toujours ton créneau et c'est toujours ton chrono qui va définir ta qualité d'athlète. Par exemple, si tu as 10 secondes, 1 centième de plus et t'arrives pas à te qualifier pour les JO mais t'es champion du monde, ça ne vaut rien. La légitimité se fait par rapport au chrono. Là, il dépasse son chrono, c'est très bien. Maintenant, moi je veux l'attendre au championnat du monde. On nous l'a vendu comme un athlète qui pourra aller chercher les étoiles pour l'athlétisme français. Il y a eu des négociations entre les fédérations à voir si lui va pouvoir aller nous chercher une médaille et pourquoi pas, parce qu'il est bon et il est fort dans tous ses domaines.
Paris School of Economics a organisé la 4ème édition du colloque Football et Sciences Sociales qui était le 5 juin 2025. Je trouve ça super intéressant, moi qui a fait des sciences humaines et sociales, je trouve ça super intéressant. Sans transition, un mois après la liquidation de l'association des chamois niortais, les chamois niortais ont officialisé une fusion avec l'UA Niort Saint-Florent. C'est de bon augure parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont en train de descendre, dont l'Olympique Lyonnais, on va en reparler aussi dans cette émission, et le football amateur est en très très grand danger. Et en même temps, le football amateur, on va en parler, ça serait la solution pour le football professionnel aussi.
Ça a toujours été la solution. C'est de par le football amateur qui arrive les stars.
De par le football amateur, mais pour revenir à ça, ça me fait penser à l'histoire d'Evian Tonon Gaillard, qui devait être liquidé et qui a été racheté, qui a eu une fusion, maintenant en National 2, bien sûr, cette équipe qui a été divisée en deux. Donc, très intéressant de pouvoir voir ces fusions entre clubs qui peuvent sauver des institutions en danger financière.
On termine.
Termine. Avec une dernière page, c'est par rapport au championnat du monde, le 27e sacre planétaire pour Antoine Albo au Mondial de windsurf à La Palme. Et là, oui, effectivement, c'est Antoine Albo, c'est une personne, c'est une légende en fait du surf et tous les sports d'eau.
Et en fait,
c'est quand même le 27e sacre planétaire pour ce monsieur-là, et c'est un Français, et donc c'était à souligner.
Merci
beaucoup,
Karim, pour toutes ces informations concernant la planète sport.
Time Sport. La parole des sociaux.
Elle est chère cette parole. Autrement dit, pour toute l'équipe de Thamesport qui m'accompagne ce soir, on a été rejoint par Aurélien Duart, mais aussi avec Moha pour revenir sur le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Alors, ce PSG, on en parlait si bien avant la pause.
Moi, c'est simple. Comment je vois le match, en fait, c'est que le Bayern, enfin, que ce soit Bayern ou Paris, ils sont au niveau auquel on entend des deux. Sauf que Paris est à un niveau champion d'Europe et le Bayern est au niveau, un niveau assez quelconque. Bayern ne fait peur à personne. Ça fait un petit moment qu'ils font plus peur à personne. Leurs joueurs ne font peur à personne. Ils n'ont pas une grande équipe. Ils n'ont pas de joueurs de niveau mondial. Peut-être Moussiala, peut-être Kane, ok, peut-être Kimmich. Honnêtement, leur défense.
Pas d'accord.
Leur défense, peut-être Upamecano, c'est peut-être leur meilleur défenseur actuellement. Et c'est pas non plus un des meilleurs défenseurs du monde. Au milieu, franchement, ça craint un peu. L'attaque est peut-être intéressante, mais c'est pas non plus une attaque de dingue. Donc les côtés ils sont un peu faibles. Ok, Moussiala est en 10, c'est Kane est devant. Mais c'est pas non plus une très grande équipe. Quand on voit le dernier match, justement, c'était contre Flamengo, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Bah, franchement, ils sont pas passés loin de la trappe, j'ai envie de dire, pas passés loin de la sortie. Moi, je trouve. Bah, en fait, ils ont pas été rassurants, tout simplement. Ils sont pas rassurants. Depuis le début, ils ont pas été rassurants. Ouais, ok, ils ont mis 10 ans contre une équipe amateur, c'est super, c'est le seul à avoir fait. Mais c'est pas pour autant qu'on va applaudir.
Tu vois pas l'axe d'amélioration, Moha ?
Moi, je vois rien du tout.
Un espoir ?
Moi, je vois pas grand chose. Ouais. Compagnie.
C'est ça, donc, ah voilà, il faut changer le coach alors. C'est Compagnie qui te rassure pas, qui te dit qu'ils pourront pas upgrade cette équipe.
Compagnie n'est pas un excellent coach, mais l'effectif n'est pas excellent non plus. C'est pas l'un qu'il faut changer à la place de l'autre. Ouais. Oui, Aris.
Ah mais non, mais c'est vrai que le Bayern n'est pas très actif sur le mercato.
On n'est pas très. Bah, en fait, ils se sont fait avoir pour Wirtz, déjà, alors qu'ils comptaient. Enfin, oui, ils étaient persuadés de l'avoir. Sané vient de partir. Kimmich, là, ils l'ont prolongé au final. Alphonso Davies, ils l'ont prolongé. Malheureusement, il s'est fait quoi, les ligaments, si je ne me trompe pas, juste derrière. On a eu une
grosse blessure.
En tout cas, il s'est fait une blessure de 9 mois, un an. Oui. Non, il va revenir pour la fin de saison prochaine.
Thomas Müller part aussi.
Bon, ils n'ont pas été ultra actifs. Là, ils ont pris Tah gratuitement.
Très bon choix.
De Leverkusen.
Très bon choix. Bah,
c'est pas non plus un excellent défenseur, donc c'est pas celui qui va non plus.
Il a été dans les meilleurs classés, dans les meilleurs défenseurs et même les meilleurs joueurs en Bundesliga lorsque le Leverkusen fait le titre.
S'il avait été aussi performant que ça, il n'y aurait pas eu que le Bayern sur lui.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, déjà, c'est un international allemand, donc il a cette légitimité, il peut avoir ça. Tu me parles par exemple de cette perfection de chaque joueur. Alors, oui, à l'époque de Jupp Heynckes, chaque joueur à son poste était
l'un des meilleurs du monde.
C'était, oui. Et je pouvais jouer, Philippe, là. Tu prends la défense centrale, le gardien, l'attaque.
Totalement.
C'est vrai que, voilà, tu prenais ça, le Bayern était légitime, il pouvait jouer dans n'importe quel club. Maintenant, par rapport au match qu'on a vu contre cette équipe brésilienne qui a fait du mal avec Gerson qui a mis un super but, l'ex-Marseillais d'ailleurs, Bilal l'aime beaucoup.
Ouais,
moi j'ai trouvé un Bayern Munich qui a des trous d'air.
Alors,
mais qui reste quand même, de par son attaque, et je parle pas de sa défense et son jeu sans ballon et sa créativité au milieu de terrain, reste dangereuse.
C'est une équipe qui, ils sont dangereux quand même.
C'est une équipe qui peut aller attirer un adversaire et le mettre en danger sur une action, mais qui ne pourra pas dominer un match comme ils l'ont fait auparavant avec les anciens entraîneurs comme Guardiola ou Heynckes, ou même après, de pouvoir mettre en danger un effectif et de pouvoir autodétruire en termes physiques et mental une équipe adverse. Maintenant, pour revenir à ça rapidement, là tu vas jouer face à une équipe du Paris Saint-Germain qui physiquement n'est pas aussi flamboyante qu'elle l'était en avril ou en mars-avril. C'est une équipe qui est un peu plus fatiguée, qui a enchaîné les matchs. Donc le Bayern Munich a ses chances pour moi.
Moi je trouve que le Bayern est tout de même aussi fatigué.
Oui. Aris, vas-y.
Mais c'est vrai que c'est une question aussi d'ascendance psychologique. Là, on est sur un scénario de quart de finale. Et en fait, le quart de finale, ça peut passer, c'est quitte au double. Ça passe ou ça casse, c'est pour moi le Bayern. Dès qu'ils ont l'ascendant psychologique, ils sont supérieurs parce qu'il y a un fait de jeu, parce que le PSG manque d'efficacité. Là, avec le jeu, avec ballon, je veux dire, la possession, ils ont la qualité technique, ils ont les joueurs. Kimmich, c'est très intéressant. Kane, c'est très réaliste, avec notamment Mikel Olysee. Ça va être intéressant de voir cette équipe du Bayern capable de capitaliser sur ses temps forts, parce que c'est une équipe qui a des ressources, une équipe qui peut imposer quand même à ce Paris Saint-Germain des petits temps faibles. Donc ça va être intéressant à suivre, mais c'est vraiment une question de contexte et de rapport de force. Si le PSG se met à sombrer parce qu'il y a cette donnée de la fatigue physique et qu'on est à la 80e et qu'il y a zéro partout.
Mais moi, franchement, je pense pas physiquement ils vont souffrir. Moi, je pense que c'est plutôt sur les fulgurances.
Le PSG peut souffrir. Le Bayern aussi.
Non, parce que
moi, c'est ce que j'ai demandé.
Mais dans le contre-pressing, je pense à risque que le Paris Saint-Germain ne sera pas mis en difficulté parce qu'ils n'ont pas les joueurs. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur cette anecdote. Quand le Paris Saint-Germain part en novembre à l'Allianz en Allemagne, physiquement ils sont pas bouffés. dans le contre-pressing, même si Luis Enrique tente un 4-4-2 en losange un peu fou, on le dit, mais il est complètement faux. Moi, j'ai revu le match. Je me rappelle, on avait découpé les choix de Luis Enrique. Mais dans le contre-physique, dans le contre-pressing, celui qui met le plus d'intensité au milieu de terrain, c'est Konrad Laimer.
Merci,
et ça, c'est intéressant de le dire. C'est-à-dire que ce Bayern, physiquement, n'est plus qu'elle a été auparavant sur l'empreinte physique, en légitimité, faire mal à ses adversaires.
Alors, on marque d'une courte pause pour cette première heure et on va revenir avec Aurélien Duarte. Parti.
Time Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Ne t'inquiète pas, ça va rentrer. Il est 20h et 38 minutes avec Aris, toujours Mohamed pour m'accompagner jusqu'à 22h avec Wahib, sans oublier Karim. Allez, on va justement prendre le temps. On va prendre énormément du temps pour retrouver notre Aurélien Duarte que nous aimons beaucoup, beaucoup sur cette antenne de Beurre FM.
Aurélien Duarte.
Bonsoir les âmes, bonsoir chers auditeurs, bonsoir le plateau, vous allez bien ?
Ça va Aurélien.
Je vous souhaite au frais d'avoir aussi apprécié les caprices du ciel et de la température et d'arrêter de vous inquiéter. Mettez-vous à l'ombre et buvez de l'eau. Avant de commencer la chronique, un petit retour sur la chronique de la semaine dernière. J'ai une auditrice qui m'a envoyé un petit message et qui m'a dit « Oui, monsieur Duarte, j'aime bien vos chroniques. » Et j'ai trouvé que la semaine dernière, ça allait très vite. La personne posait une question, vous répondiez, elle enchaînait par une autre question. Et elle m'a dit « J'aimerais comprendre parce que vous méditez, vous respirez, vous nous dites de ralentir et vous vous êtes fait avoir, vous étiez dans le speed. » Alors voilà, c'est vrai l'enseignement du jour. On ne peut pas se dépêcher d'aller bien. Sortez de cette illusion. Vite fait, bien fait, souvent c'est de la précipitation, de la brutalité. Et même si le travail est fait vite, on n'a pas eu le temps d'apprécier. Ce qui était intéressant dans cet enchaînement de questions, est-ce que vous avez remarqué parfois quand quelqu'un a un avis différent, on va lui poser une question, il va nous donner un argument et tout de suite on va enchaîner sur une autre question. Il y a une partie de nous qui a peur du silence, il y a une partie de nous qui a peur du vide parfois, qui a peur d'entendre un avis différent. Donc remarquez parfois si vous avez ces petits tics verbaux de questionner, d'être un petit peu inquisiteur, de surenchérir, et voilà, ça ne permet pas d'intégrer l'information et de prendre le temps. Donc je vous demanderai aujourd'hui après chaque question, on laissera juste une ou deux secondes, on s'autorisera à ralentir pour que l'information puisse rentrer et que les auditeurs puissent apprécier. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une première question aujourd'hui, Bilal?
Oui, parce que on va à fond la caisse et c'est pas bon. Il faut prendre le temps.
Il faut prendre le temps aussi. C'est pas que c'est pas
bon. Mais l'auditrice ou l'auditeur a raison.
C'est une question d'équilibre. Il y a un moment où on est dans le.
Mais il faut. Mais
la Terre tourne de plus en plus vite.
Oui.
Non, mais c'est une vraie info.
Ah, mais je crois que c'est nous qu'on fait péter un peu le plan de la Terre.
Ah oui.
Elle en a marre.
Ah oui.
Elle en a marre d'en avoir marre. Aris, avec quoi? Peut-être avec comment? Ah oui, une question avec Karim. On abordait cette. Ouais, c'était la méchanceté. On parlait la dernière fois. Karim.
On avait fait ça.
Et ces personnes que l'on. Des fois qu'on n'arrive plus à reconnaître d'une certaine manière. Ouais, Wahib. Alors.
On dit souvent que pour être prêt à changer, pour être prêt à évoluer dans une société, il doit y avoir un déclic dans notre vie. Comment tu fais pour avoir un déclic dans ta vie quand il y a eu un événement particulier au sein de ta vie personnelle, professionnelle? Comment on fait pour faire face à ça? Comment on se bat? Comment on essaie? Parce qu'en fait, il y a un dicton qui dit chaque humain a une période de transition tous les 5 ans. Tu as ta période de transition tous les 4 ans. Un humain souffre un peu de ça. Comment tu fais pour quel conseil tu donnerais à une personne qui est en face de toi qui dirait: Aurélien, moi c'est une période de transition en ce moment, il y a beaucoup de changements dans ma vie et mentalement ça va pas trop. Comment je fais pour on va dire survivre à ça et se réadapter à un mode de vie pour devenir encore meilleur?
Merci beaucoup, merci pour la question. Ouais, c'est effectivement, on se pose cette question régulièrement. On vit tous des épreuves, on a tous des cycles. Et la question que j'ai envie de vous poser à mon tour, parfois je réponds à une question par une autre question. Comment se fait-il qu'on est encore surpris de choses qui nous arrivent tout le temps, qui sont arrivées à nos parents, à nos grands frères, à nos grands-parents? On refuse la vie. On refuse la vie. Il y en a qui refusent la chaleur. Non, il ne devrait pas faire aussi chaud. On est en guerre contre les éléments. La vie, c'est accueillir les événements et les situations. C'est pas lutter. Vous avez vu dans les mots qu'il a dit parfois, on veut lutter, on veut se battre. Je sais pas si c'est ok. La première chose, c'est d'accepter l'épreuve. D'accepter qu'on ne contrôlera pas tout. On n'a pas un contrôle sur tout. La vie est pleine de surprises, d'inattendus. On a des choses à apprendre, des expériences à vivre et elles tomberont pas forcément au moment où on a envie. On dit que la vie, c'est un professeur très difficile parce qu'elle te donne l'examen avant la leçon. D'abord, on se fait larguer à 13 ou 14 ans ou 15 ans par sa petite chérie. Et là, on se rend compte qu'on a une plaie de l'abandon et qu'on pleure. Donc, ça sert à nous révéler. Donc, la première chose que je dirais, moi, c'est poser votre mental et poser votre ego. Si une situation arrive, elle n'arrive pas contre toi. Elle n'arrive pas à toi. Elle arrive pour toi. Comme tu m'as dit, que certains me disent, mais comment je fais pour survivre? Je dis, mais t'es en train de me parler, là. Ouais. Donc, t'as survécu. Tu n'es pas une malheureuse et impuissante victime. Tu es un ingénieux et une ingénieuse survivante, puisque t'es là encore aujourd'hui. Seulement t'as tellement focalisé, t'es tellement souvenu du négatif, des problèmes, des douleurs, que t'en as oublié les stratégies, les compétences, tout ce que t'as développé et que tu as survécu à ça. Sortez de l'étiquette qu'il y a des choses bonnes qui nous arrivent et il y a des choses mauvaises qui nous arrivent. Il y a des situations, des faits, des personnes, des rencontres. Et si tu ne colles pas d'étiquette, tu n'as plus de déception. Chaque personne devient un allié ou un professeur et chaque situation devient une épreuve de croissance. Donc la première chose, c'est vraiment ça. Reconnectez-vous, tu acceptes la lumière, oui, tu acceptes l'ombre. Tu acceptes la souplesse, tu acceptes la dureté. Tu acceptes la compagnie, tu acceptes la solitude. Tu acceptes les compliments, tu acceptes les critiques. Et le fait de te reconnecter, te réconcilier avec l'ensemble de la vie, ça te redonne du pouvoir. Tu cesses de lutter. Et enfin, une dernière chose, vraiment le petit tricks magique. Dites merci. Même si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, merci à l'épreuve, merci à ce chamboulement. C'est ça qui vous donne l'énergie d'avancer. Si vous dites, oh, j'en veux pas de ça, oh, je suis dégoûté, vous acidifiez le corps, vous baissez vos propres défenses immunitaires, vous baissez votre flux d'énergie. Merci à cette situation qui m'arrive. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je peux me former, je peux m'accompagner, je peux grandir, évoluer pour la traverser. Cessez de vous battre contre les éléments, pour ceux qui croient en Dieu, contre les épreuves de Dieu, et ceux qui ont une vision plus terre à terre, contre les faits, les événements et les situations qui sont. Cessez de vous battre.
J'avais une question, s'il te plaît, Bilal, ouais. pour Aurélien.
Prends le temps. Hein.
Aurélien, voilà. Dans cette circonstance, dans cet environnement, cette atmosphère du moment, comment, lorsque une bataille est lancée, c'est-à-dire juste deux personnes, un exemple, deux personnes qui ne s'entendent pas, à plus grande échelle, deux grands groupes ne s'entendent pas, quand la bataille elle est lancée, ça veut dire la surenchère, je te mets un coup, je te rends un coup, l'autre il va remettre plus fort. Comment on fait, à quel moment, comment on fait pour que l'humain s'arrête, pour qu'il n'y a plus cette surenchère, ce combat de coq là, où on monte, on veut montrer les pectoraux d'un côté ou de l'autre.
Lui, en plus.
Je pense que c'est une bonne question, je pense Aurélien, je sais pas, mais est-ce que tu comprends ma question? Oui. Comment on peut arrêter cette surenchère,
l'engrenage
négatif vers la violence? Comment on peut faire dire à l'autre, mais stop, viens, on s'arrête en fait. Viens, on essaie de penser, de faire un truc constructif en fait. Ah, je pense que c'est une super bonne question, ça, surtout en ce moment.
Oui, surtout parce que c'est toi qui l'as posé. Merci. Bah oui, on se pose toutes ces questions. On a parfois une volonté de paix dans votre religion, à Salam Aleikum, que la paix soit avec toi. Donc on veut juste tous discuter, échanger, partager pour la paix. Eh bien non. Il y a une illusion, soyez bien assis et j'aimerais te donner une réponse, te dire voilà comment faire. Nous n'avons aucun moyen de faire changer l'autre. Nous n'avons aucun moyen. Chacun prend conscience de sa réalité et fera ses changements intérieurs. Je sais que c'est brutal et que c'est violent. Regardez bien, si je vois quelqu'un agresser quelqu'un dans la rue, je peux lui dire, monsieur, arrêtez de taper, s'il vous plaît, monsieur. Il n'arrêtera pas. La seule manière que je vais avoir de l'arrêter, c'est par la force, la menace ou la ruse. Mais quelque part, attention, parce que là, je vous demande vraiment d'ouvrir vos cœurs et de continuer à me trouver toujours aussi sympathique, même si je veux dire quelque chose de chamboulant. Se battre avec quelqu'un qui veut se battre, c'est développer la force de ton sparring partner. Lutter contre quelqu'un qui veut lutter contre toi, c'est développer la force de l'adversaire et c'est surtout développer l'énergie de la lutte et du combat.
Mais dans quel but, Aurélien, au final?
Le but, c'est celui qui a peur qui agresse. C'est celui qui a peur qui tire le premier. C'est celui qui a peur et qui a mal qui fait des horreurs. Parce qu'il est souffrant, parce qu'il a peur lui-même d'être attaqué, il a peur lui-même de... Pourquoi est-ce qu'on envoie des bombes sur un autre pays? Parce qu'on a peur de recevoir des bombes. Pourquoi on bombe le torse dans la cour? Parce qu'on a peur que l'autre bombe le torse et nous rabaisse.
Pourquoi on n'agit pas humainement pour le futur? Alors, dans la bonne chose des choses, pour le bien.
Souvenez-vous que je n'ai pas toutes les réponses, mais rappelez-vous d'une chose. Nous n'avons pas le pouvoir de changer l'autre. Et c'est ça qui est brutal. Parce qu'on aimerait mettre fin à toutes ces exactions, toutes ces horreurs qu'on traverse. Le changement profond, c'est il commence par soi-même. C'est-à-dire que quand il y a une guerre, quand il y a un conflit, si tu prends parti pour un des deux camps, quelque part, tu prends parti pour le conflit. Quand tu prends parti pour la paix, voilà, je vais être transparent avec vous aujourd'hui, je pleure pour les enfants palestiniens qui sont bombardés et je pleure pour les enfants israéliens qui ont peur d'être tués. Je pleure pour les deux. Et sur chaque conflit. Donc voilà, dans l'idée, c'est que la seule manière de désamorcer un conflit, c'est d'être en paix soi-même. La seule manière de désamorcer un conflit, c'est de dire, ok, moi qui prie, moi qui ai lu les livres saints, moi qui médite, quand l'autre va arriver avec sa rage, avec son envie de tuer, de battre, de convaincre, si je fais comme lui, à quoi me servent mes prières? À quoi me sert mon Coran? À quoi me sert ma foi? À quoi me sert mon jeûne si la première personne en colère qui m'insulte moi, ma race, mon peuple, ma couleur de peau, mon sexe, ma voiture, me grimpe et je pète un câble et je l'insulte? Non. C'est le chétan qui a gagné. Donc je sais que ça vous paraît bizarre. Et je vous recite à chaque fois la citation de votre prophète. L'homme fort n'est pas celui qui a vaincu dans la lutte, c'est celui qui a vaincu sa colère. Exactement. Alors, je vais prendre deux exemples.
Il faut se renseigner.
Deux exemples. La décolonisation dans le monde entier, c'est bien souvent fait à coup de feu, à coup de bombardement. Et il y a une décolonisation qui s'est faite en Inde sans tirer un coup de feu. Il n'y a pas eu moins de morts. Il n'y a pas eu moins de sang qui a coulé. Mais ces gens ont arrêté de travailler dans les usines, ont arrêté de partir dans l'armée, ont arrêté de nourrir le système de l'oppresseur et ils les ont tués économiquement. Incroyable. Et les Anglais sont partis de l'Inde sans que l'Inde ait tiré un seul coup de feu.
Il y a eu quand même un déplacement démographique qui a tué d'énormes peuples avec le général Mountbatten, par exemple, entre l'Inde et le Pakistan.
Rien que le ton avec lequel tu parles me dit que tu n'es pas d'accord et c'est ok. Juste, je veux te dire, n'écoutez pas mes exemples, écoutez le fond. Je t'ai dit qu'il y a quand même eu des morts. Donc on est d'accord.
Oui.
Je vous dis pas que le fait d'être pacifiste, le fait d'être dans la paix, ça t'empêchera pas de prendre une claque.
Bah, bien sûr.
Mais la question, c'est est-ce que tu vas la rendre? Ou est-ce que, comme Jésus, quand tu vas prendre la claque, tu vas dire waouh, mon frère, qu'est-ce que tu dois souffrir? Qu'est-ce que tu dois avoir mal pour m'avoir frappé? Tu sais quoi? Je ne partirai pas dans l'escalade avec toi. Je vais rentrer chez moi et je vais prier pour que tu trouves la paix. Bon. Et oui, je sais qu'on trouve ça lâche, on trouve ça injuste, surtout quand il y a des morts et des bombes qui tombent. Mais au-delà
plus
de ça,
possible.
Je vais vous dire autre c'est chose maintenant. Possible. Je vais vous dire autre chose de plus ésotérique et de plus métaphysique. Tu l'as dit tout à l'heure, la Terre accélère parce que le monde accélère. Quand il y a eu les événements du 11 septembre, toute la Terre a vibré la peur au même moment.
Oui,
et on a eu des capteurs sismiques qui ont tremblé.
Oui,
donc c'est-à-dire, attendez une seconde. J'aime à croire que nous créons notre réalité. Que les êtres humains, le fait d'être en conflit avec nos pères, être en conflit avec nos sœurs, être en conflit avec une autre race, être en conflit avec notre voisin, être en conflit avec
rien, c'est dangereux.
Nous sommes 8 milliards à vibrer, quelque chose ne va pas. Et la vie crée des événements et des situations pour nous confirmer ça. Ce qui marche sur le plan personnel marche sur le plan mondial. Ces guerres que nous avons, ces conflits, ce n'est que le reflet de la guerre qui sommeille en chacun de nous.
Incroyable.
Trouver la paix, prier, méditer, envoyer de l'amour à ceux qui tuent, envoyer de l'amour et de la tendresse et de la compassion à ceux qui souffrent, à ceux qui font le mal parce qu'ils n'ont pas la lumière et ils n'ont pas l'amour. Et nous qui prétendons l'avoir, on va se rabaisser à détester celui qui déteste. Qu'est-ce que tu fais de mieux que lui? La première chose que tu peux faire, c'est vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas ma colère, vous avez mon profond désaccord avec ce que vous faites. Et si ce que vous faites va nuire à la vie de quelqu'un, je mettrai la main. Mais tant que le sang ne coule pas autour de moi, je t'accueillerai dans la paix, je t'écouterai. J'ai discuté et j'ai invité chez moi des skinheads. J'ai discuté, quand je suis devenu ami avec Dieudonné, des gens du Bétard sont venus chez moi, de la Ligue de Défense Juive. Ils pensaient que j'allais avoir peur ou que j'allais me battre avec eux. J'ai ouvert le portail de mon jardin en short et je leur ai dit, le thé est prêt, il y a les pignons, venez discuter et venez me dire pourquoi vous avez peur de cet homme. Pourquoi vous voyez des antisémites partout? Venez me dire pourquoi vous avez peur. Je n'ai pas peur de votre peur. Donc voilà ce que je vous propose. Je sais que ça paraît impalpable, ça paraît futile, ça paraît irréalisable, ça paraît difficile, ça paraît lâche.
Mais en même temps, humain.
Et pourtant, c'est la solution. Merci infiniment d'avoir écouté et que la paix vous gagne.
On a encore une réaction. Elle nous vient du réalisateur Solal.
Pour rester sur le sujet de la paix et de la guerre, il y a une phrase très importante qu'a dit Bouddha plutôt sur les guerres d'ego. Il dit une phrase toute simple qui est: dans les guerres d'ego, le perdant gagne toujours.
Waouh, exactement.
Ouais. Elle est pas mal,
c'est pas mal.
À reprendre.
Ouais. C'est vrai. Aurélien. On pourra suivre l'actualité d'Aurélien sur les réseaux sociaux comme d'habitude.
Oui, là, l'actualité, c'est pas mal de conférences. Là, je travaille actuellement avec une école que je salue. C'est Visionnaire Institut dans le 13e arrondissement qui place en CFA des jeunes étudiants. Et pendant 4 heures par semaine, ils travaillent avec moi sur les postures, le savoir-être, la confiance, l'art oratoire et comment la vibrer différemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Des stages aussi. Et là, je suis très content. Je commence mercredi à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Je repars sur un programme de 15 heures, ouais. 5 fois 3 heures avec des détenus. Bravo, sur gestion de l'énergie, de la colère. Et le mantra, c'est je prépare ici qui je suis à la sortie. Donc profiter de ce temps de punition, ce temps de privation, et ben de le voir comme un temps de formation et une chance. Exactement. De lire, de grandir, d'apprendre et de sortir transformé.
Et on pense à tous les détenus de ouais. France ou d'ailleurs, avec ces conditions climatiques, ça a été difficile.
Ça reste des détenus. Ça doit être assez dur, surtout avec ces périodes de chaleur.
C'est vrai. Et pour équilibrer, comme je le disais tout à l'heure, une grande pensée aux détenus et aussi aux grandes pensées à toutes les victimes et toutes les personnes qui ont croisé le chemin de ces personnes un jour dans leur vie, mais c'était pas dans la lumière. Donc voilà, la paix des deux côtés.
Un grand merci Aurélien Duard d'avoir été avec nous. On pourra retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera la dernière de la saison, Aurélien.
Non, moi je pars pas en vacances.
Voilà, c'est ça.
Moi je reviens mercredi, je vais aller à partir, moi je fais ma chronique.
Voilà.
J'étais une demi-heure trois fois. Je kidnappe Solal. Je mets un groupe électrogène et on fait la chronique sur la plage.
Tu n'auras pas besoin de me kidnapper. Je
viens avec toi. Solal sera là. Allez, vous restez avec nous et on revient pour la deuxième heure. C'est parti.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. La rediff. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et nous sommes de retour pour la deuxième heure de Time Sport. On est ensemble jusqu'à 22h. Et oui, et on se quittera la semaine prochaine. Voilà, malheureusement. Eh ben oui, on doit prendre des vacances, on doit se reposer un peu, hein, comme tout le monde. Et on reviendra rapidement sur les ondes de Beurre FM avec de nouvelles horaires. En tout cas, ce soir, on est ensemble. On a parlé du Paris Saint-Germain. On essaiera de revenir sur le Paris Saint-Germain qui rencontrera le 5 juillet, 18h heure française, le Bayern Munich de compagnie ou encore Kingsley Coman, l'international français. On va retrouver la semaine prochaine aussi Aurélien Duard pour cette dernière chronique de la saison radiophonique. On va revenir là sur cette seconde heure du Real Madrid. Et oui, le Real Madrid de Xabi Alonso ou encore Kylian Mbappé. C'est parti.
Time Sport, le ras-le-bol.
Avec Wahé Baris qui m'accompagne aussi, Karim, sans oublier Moha, on parle de ce Real Madrid, les Meringues, avec toi Aris. Et oui, le Real Madrid qui passe qualifié en quart de finale de cette Coupe du Monde des clubs aux USA.
Oui, le Real qui est qualifié en quart, qui va affronter d'ailleurs Dortmund, qui a battu Monterrey 2-1 cette nuit. Le Real qui a fait un match intéressant parce que Xabi Alonso essayait d'instaurer une nouvelle tactique, une nouvelle animation avec cette fameuse défense à 3. Moi, j'ai relevé une incompatibilité avec l'idée d'instaurer ces défenses à 3 et le manque de pressing face à la Juve, qui est quand même une équipe qui est plus relevée que Salzbourg. Le Real a eu fait un bon match contre Salzbourg sur ce plan-là. Et effectivement, une défense à 3 qui était dans une équipe qui ne voulait pas asphyxier, qui ne voulait pas imposer un gros rythme, une grosse pression à l'adversaire, et ça a créé un manque de compréhension, d'automatisme notamment, parce que la Juve pouvait facilement casser des lignes. Donc la défense à 3, il y a des choses à revoir, mais Thiago Alonso a des idées nouvelles qui sont très intéressantes. Je pense notamment au repositionnement d'Arda Güler comme étant le créateur, celui qui va être à la construction, surtout, et Valverde qui lui va un peu inverser avec un rôle beaucoup plus offensif puisqu'il a beaucoup plus de coffres. Ça a valeur d'espace très clairement, l'Uruguayen. Et de nouvelles idées, Vinicius, Mbappé, on pourra en parler de cette incompatibilité là, mais on a un Thiago Alonso très intéressant qui fait preuve de flexibilité, Ariel qui accepte de faire dos rond, et on a également des éléments du Real de Carlo Ancelotti, notamment en seconde période. C'est pratiquement ça, Ariel à réaction, Ariel qui attend pour trouver la faille, qui accélère en deuxième mi-temps et qui parvient à gérer derrière face à cette équipe de la Juve qui manque de ressources, qui manque de force. C'est une équipe qui n'a pas le niveau clairement pour faire face.
Moi, elle n'a pas le niveau.
Moi, je pense que, justement, en tout cas, concernant la défense à 3, moi, je pense que c'est principalement parce qu'en fait, quand une défense à 3, défense à 5, moi, je pense que c'est très, très compliqué de presser. Et c'est pour ça que, en tout cas, dès le début du match, on a eu du mal à voir justement les joueurs du Real presser. Parce que, enfin, je trouve que c'est assez incompatible, en fait, comme idée, d'avoir une défense à 5 et d'aller asphyxier l'adversaire.
Je trouve qu'il n'a pas les joueurs pour.
En fait, il va falloir le travailler, justement, parce que va falloir
exactement,
le travailler. Parce que les joueurs, ils sont pas habitués jusqu'à la faire. Mais je pense que, tout de même, c'est pour ça que le moment du match où justement on a plus vu le Real réussir à presser la Juve, c'est le moment où il a réinstauré en fait Tchouaméni au milieu, donc une nouvelle défense à 4 avec un 4-4-2, et c'est à ce moment là où justement le Real a réussi à plus asphyxier, parce que c'est quand même très difficile de presser à 5 parce qu'il y aura forcément toujours un joueur libre. Et surtout, moi je trouve que là tactiquement, là où la Juve a posé problème au Real vis-à-vis de Salzbourg, c'est que ils ont beaucoup, en fait ils ont verrouillé l'axe, et donc ils ont verrouillé un peu les positions de Bellingham et de Valverde, qui eux aiment bien un peu faire l'ascension en fait entre la position d'Arda Güler et la position justement à côté de Gonzalo Garcia.
Mais Bellingham, très surprenant hier, il était aussi des fois ailier droite, on l'a vu ailier droite, et c'est ça en fait. Et je pense que Xabi Alonso, il est en train d'expérimenter quelque chose. Il veut lui reproduire ce qu'il faisait au Bayern Leverkusen. Ça va prendre du temps. Ça va pas être même au début du championnat de Liga. Et je pense qu'ils vont un peu galérer.
De toute façon, ce qui est simple, c'est que Bellingham, il est pas là durant le début de saison parce qu'il va se repérer après la Coupe du Monde des clubs et qu'il va rater entre 2 et 4 mois.
Ça.
Et quand on pense à ça, on se dit forcément que son remplaçant naturel, ça sera l'Argentin nouveau venu de River Plate, ce sera Montesantono. Donc cette position offensive, elle est habituelle pour lui. Et je pense que c'est surtout en soi, c'est censé être la position de Valverde, mais puisque tous les deux ont des compétences à la fois défensives et offensives, bah, tous les deux en fait ils vont pouvoir permettre à Ancelotti, justement de faire l'ascenseur entre ok, à quel moment l'un va descendre et lequel va pouvoir monter, et justement avec Arda Güler comme étant le joueur fixe au milieu, comme étant métronome.
C'est pas mal,
et là, quelque chose, un espoir aussi, c'est que Carvajal va revenir, Militao va revenir, Brahim Diaz est là, Lucas Vasquez est encore là. Franchement, hier, moi je sais pas compris pourquoi il a pas fait rentrer Brahim Diaz, je ne comprends pas. Ouais. Il a fait rentrer Kylian Mbappé, c'est bien pour son retour, etc.
Rotation peut-être.
Il y a Rodrigo aussi.
La question, c'est
vraiment une grande question.
Je pense que la question est vite répondue pour Rodrigo. Je pense que ça sent le sapin.
Ouais. Ah. Juste, Bilal, il est dans un chantier qui est quand même. Je suis impatient de voir quel va être le chantier cet été, et surtout au début du championnat de Liga pour le Real de Madrid. Et là, oui, effectivement, jouer à 3, il est dans l'histoire du Real de Madrid, ça a été très, très, très rare. Mmh. Très, très, très rare. Il n'y a eu pas beaucoup de personnes qui ont tenté cette composition, cette formation. Et donc là, oui, là, il y a un vrai chantier, mais il a des joueurs quand même. Il a un effectif. On ne le voit pas encore, mais il a un effectif. Et après, il faudra aussi se renforcer aussi.
L'effectif
de clé.
Justement, ils nous ont parlé, Wahib.
Mais remplacer Kroos ou vouloir remplacer Modric, c'est pas ça la clé, Bilal.
50% de chance de tout changer, nous disait. Oui, c'est un truc comme ça.
Je disais pourquoi. Bon, là, j'étais assez dur sur cette. Allez, on va dire cet effectif du Real Madrid dans son aspect. Pourquoi 50%? C'est parce que Xabi Alonso veut des joueurs de système, il veut moins d'individualité. Et ça, c'est un fait qui est réel dans le football moderne aujourd'hui, et de par ce que lui veut mettre en place, par son contre-pressing, son relance à 3, son jeu à 3, voilà. Pour revenir à ce que vous avez dit sur Bellingham, ce que t'as dit Karim, ou ce que Mohamed a dit, ou même ce que a dit Harris, c'est pas qu'il joue sur un côté, c'est qu'en fait le milieu de terrain, il permute énormément avec Xabi Alonso, et qu'ils essayent d'aller engranger de l'espace et une possession. Il va pas jouer sur un côté, il fera jamais jouer Bellingham, parce que Bellingham, dans son style de dribble et dans sa conduite de balle, c'est pas un joueur qui rentre intérieur ou qui va longer la ligne.
Des fois, tu le voyais tout seul sur le côté.
C'est parce qu'il permute, et les milieux de terrain du Real Madrid, ce qu'il demande, et il l'a dit en conférence de presse énormément, il veut des milieux de terrain qui mangent l'espace. Et si tu manges l'espace, ça ne veut pas dire que tu es forcément sur le côté. Ça veut dire que des fois, tu vas permuter, tu vas te retrouver à droite, tu vas aller à gauche, tu vas aller à 30 mètres de ton but. Incroyable. Et c'est ce que Xabi Alonso veut mettre. C'est un peu un milieu, je dirais un peu hybride, dans le sens de la gestion du déplacement. Et c'est ce qu'on a énormément recherché aujourd'hui dans ce football moderne, cette gestion du déplacement. Le Paris Saint-Germain l'a fait à moindre mesure, bien sûr. L'Atlético le fait aussi, et l'a fait, et il a essayé de le mettre en place le Simeone, mais ça a été très compliqué parce qu'il n'a pas les joueurs. Je regarde Manchester City, et l'un des fondateurs un peu de tout ça, c'est Guardiola avec le City.
Exactement.
C'est en gros le
trio magique.
Non, c'est le trio magique, mais c'est vraiment la façon de permuter. C'est par exemple, tu voyais De Bruyne aller sur le côté et en fait, et bah, être un peu plus collé à Riyad Mahrez sur ce ouais. côté droit, bah, de longer la ligne. Et donc, ils avaient une facilité, de pouvoir jouer en 1-2 et l'accélération. Ou sinon, t'avais un autre joueur à l'opposé qui pouvait aussi le faire, mais t'avais cette permutation. Et ça, en fait, qui apporte, en fait, cette qualité à un milieu de terrain comme ça, c'est d'avoir 3 milieux de terrain ou 4 milieux de terrain ou 5 comme tu veux, comment tu veux le définir, oui. qui pressent ensemble. Oui. Maintenant, le problème de cette fragilité dans un système comme ça, c'est de se dire, il faut que t'aies 11 joueurs sur le terrain. C'est 10 joueurs sur le terrain, c'est pas complémentaire, il faut qu'ils courent tous. Ah, parce que ton milieu de terrain n'est pas fixe. C'est pas, tu n'as en fait. Exactement, le Paris Saint-Germain, c'est de se dire, c'est, en fait, j'aime pas le comparer parce que c'est pas le même système de jeu et ouais. parce que Xabi Alonso aime utiliser, il va beaucoup plus utiliser la gestion de l'espace et la transition. Et c'est pour ça que j'ai été très dur avec Kylian Mbappé. Mais je pense que l'arrivée de Xabi Alonso peut donner une nouvelle dimension à sa carrière en termes de retrouver ce qu'il a toujours été, un mangeur d'espace. Ça peut être intéressant. Non, mais c'est vrai.
Totalement. De toute façon, on le voit sur le match de
Manchester. C'est exactement. Donc, voilà. Donc, permutation. Et moi, ce que j'aime chez ce Real, c'est Garcia. C'est un joueur qui c'est le neuf que l'Espagne cherche depuis des années. Il a une maturité dans sa façon de se déplacer. Moi, j'ai vu une action très intéressante où tu vois Vinicius déclencher un appel. C'était lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde des clubs. Et tu vois Garcia faire un appel pour libérer de l'espace afin que Bellingham derrière puisse déséquilibrer la défense centrale. Enfin, c'était
Gonzalo
quelque chose.
Garcia.
C'est Gonzalo Garcia.
C'est le premier but. Ouais.
Moi, franchement, ça me plaît énormément. Moi, j'ai été dur envers le Real Madrid l'année dernière, mais là, les idées qui sont mises en place, le QI foot que tu as chez certains joueurs peut donner à un Real Madrid assez attrayant. Donc le prisme du résultat, oui. Maintenant, ce qui est très dur au Real Madrid, c'est pas le prisme du résultat, c'est l'impatience, le chantier, l'impatience, mais surtout de se dire peut-être que cette année t'es pas sûr de gagner un titre, t'es pas sûr de gagner la Ligue des Champions. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de laisser Xabi Alonso travailler. Et ça va être la plus grosse mission. Et c'est plutôt une histoire de mœurs et de mentalité dans l'institution auprès des supporters du Real Madrid de se dire, écoute, on va installer un coach qui va être plutôt dogmatique dans son jeu pour plusieurs années.
Aris, vas-y.
Ce qui est intéressant, c'est que Xabi Alonso, lui, fait preuve de flexibilité. Il a cette intelligence, il n'est pas arrêté à un système de jeu, à une façon de jouer. Il peut jouer une défense à 3, une défense à 4. Mais là, c'est la Coupe du Monde des clubs, c'est le début. On est dans une compétition où on doit tout de suite gagner parce qu'on affronte des mastodontes européens, même si la Juve, on peut en rediscuter évidemment. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi son adaptation, sa réadaptation en replaçant Vinicius sur l'aile en seconde mi-temps, puisqu'il a bien compris que les pistons ne pouvaient pas aller très haut, que la Juve avait cette densité axiale et que le pressing ne fonctionnait pas. Donc on est revenu un peu sur l'ancien système avec Vinicius qui retrouve cette position.
Ouais, parce qu'il n'a pas encore l'effectif pour. La définition de ce Real Madrid actuel, c'est, alors il est en train de construire une villa avec un ciment périmé. Tu vois, c'est dur ce que je dis, mais c'est qu'il y a certains joueurs, et je l'ai dit, moi, les 50%, moi, je le sens arriver, c'est que c'est un entraîneur qui va vouloir mettre en place son système. Et bien sûr, j'utilise le conditionnel, c'est Pérez. Si Pérez lui donne carte blanche, la moitié de l'effectif que tu as eu sous Ancelotti partira parce que
vous avez balancé.
Quel profil, précisément.
D'après toi,
c'est
l'époque des Galactiques.
Ce sera un jeu plus axial en fait avec Vini et Mbappé, mais là il va falloir le construire. Là c'est beaucoup trop tôt
pour
en déduire, pour donner des déductions, des conclusions.
Non, mais parce que tu sais, les entraîneurs comme ça qui arrivent dans une équipe où il veut construire une légitimité, où il veut construire un système, tu peux me dire que c'est le début et c'est peut-être ton débat et ce que tu mets en place, mais en fait ce ne sera plus le contexte que tu as eu auparavant avec Cristiano, Modric, tu ramenais un entraîneur, il mettait son idée, non. Là c'est fini, là tu as choisi un coach, donc le Real, et j'aime bien dire ça, a choisi un virage, une direction, c'est le système et le dogmatisme pur. Quand tu ramènes un coach,
pas ce point là, je trouve pas,
il est pas pragmatique
par rapport à Guardiola, par rapport à d'autres entraîneurs,
non, mais
par rapport à Lopetegui qui a voulu instaurer ce dogmatisme football espagnol, possession, on a des joueurs de qualité,
il l'a mis en place au mauvais moment au Real Madrid. C'est tout un et une histoire de contexte, hein. Comme je te le dis, et on en discute souvent par rapport au Real Madrid. Moi, je te le dis, 50% pour finir. Bah, pour moi, Vinicius, il restera pas indéfiniment au Real Madrid parce que c'est pas la star et parce que on l'a vu
la situation contractuelle est
et même situation contractuelle mais pour revenir au système Vinicius longe la ligne, c'est un joueur comme ça, lui il a besoin d'avoir un piston qui prend mais là c'est plutôt sur l'aspect statique, c'est la gestion de l'effort, défendre, ouais. avoir un piston, et à mon avis à un moment le Real Madrid se penchera sur un piston qui peut jouer offensif.
Pour revenir sur ça arrive de toute façon parce que Fran Garcia ne va faire long feu et justement il y avait déjà un deal qui aurait dû se faire avant la Coupe du monde des clubs, du coup c'était Alvaro Carreras.
Exactement.
Après, c'est pas non plus c'est pas non plus le piston gauche du futur auquel celui on pourrait imaginer, mais ça reste tout de même un latéral, un piston qui a un niveau quand même supérieur à Fran Garcia.
Alors, et donc tu le dis, c'est très bien parce qu'il faut en parler.
Vas-y,
c'est se dire, Rodrigo, c'est fini, il part. On sait très bien qu'il va partir. Donc pour Güler.
En fait, soit Vinicius, soit Rodrigo partira.
Ouais. Güler. Alors, dans un rôle de créateur, parce que moi, et vous allez peut-être me tomber dessus, pour moi, le vrai créateur du Real Madrid en termes de technique pure, de celui qui peut déclencher des passes à 30 mètres, pour moi, c'est Güler, c'est pas Bellingham. Bellingham est dans un rôle un peu plus suite, box-to-box, transition, attaque offense, il peut défendre comme attaquer très bien, et tu as ton vrai 6. Mais Güler va devoir s'adapter au système de Xabi Alonso, de savoir permuter, de savoir défendre aussi. Et c'est très dur. Et on l'a vu dans ses limites athlétiques. Ça va être une nouvelle préparation.
Au contraire, moi, alors, sur les matchs depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, Güler a fait des récupérations, un nombre de récupérations incroyable, une activité défensive qu'on n'a jamais vue chez le Turc. Franchement, Güler,
c'est
complètement épanoui.
Je
veux bien de le noter. Est-ce que ça va tenir sur la régularité, sur la durée?
Exactement, c'est pour ça que
je comprends ton scepticisme.
De toute façon, si un point intéressant, c'est que là, on peut vraiment se dire, d'accord, c'est les 4-5 premiers matchs de Xabi Alonso et qu'on peut vous... En fait, c'est littéralement que les prémices. Ça veut dire que tout ce qu'on voit actuellement, on en est vraiment qu'au balbutiement en fait du début de cette ère-là. Et tout ce qui est positif, on peut le retenir. Et tout ce qui est négatif, on peut espérer et s'imaginer que ça va être gommé. Et en fait, c'est
je vois pas du négatif.
Moi non plus, je vois pas de négatif. Et le peu de négatif que je vois, je me dis, ok, bon, en fait, vu déjà tout ce qui a été fait en 3 semaines, et ben... sur plusieurs mois, bah en fait, ça sent super bon parce que quand on voit vraiment en 3 semaines ce qui a été fait, le match d'hier, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas. Il y a des actions qu'on a vues déjà sous Ancelotti, d'accord. Mais on n'a pas vu cette régularité-là dans l'effort. Même Vinicius, dans sa manière de presser.
Ça fait un an qu'ils ne sont pas dans l'effort. Hein.
Non, ça fait un an qu'ils sont en vacances.
La concurrence, Xabi Alonso est en train d'instaurer un système de concurrence et c'est ça qui va les faire développer.
Bah, pas encore, justement. Le système de concurrence, il n'a pas encore lieu parce que la seule concurrence qu'on peut voir à premier lieu, c'est entre guillemets celle devant. Donc il va être entre Vinicius.
Hendrick,
même s'il va prêter, il restera là en second couteau. Mais surtout Gonzalo Garcia, parce que Gonzalo Garcia.
Une concurrence,
ce qui est intéressant avec Gonzalo Garcia, c'est le profil. Ouais. Parce que là,
Gonzalo Garcia a plus de légitimité qu'Hendrick dans les
oui, déjà, il est plus légitime, mais surtout, ce qui est intéressant, parce qu'on va voir beaucoup, manger la comparaison Mbappé et Gonzalo Garcia, mais entre les deux, il n'y a pas grand chose à voir. Mais c'est surtout, Gonzalo Garcia, va falloir le faire jouer une demi-heure par match minimum et que ce soit à la place de l'un ou de l'autre. Parce que quand on voit sa performance hier, quand on voit son niveau de jeu sur la phase de poule et hier, ce qui est intéressant, c'est pas est-ce qu'il marque ou est-ce qu'il marque pas, c'est qu'il apporte de la variété dans le profil, dos, but. Comment on va aller faire, comment on va aller créer l'espace, comment on va faire un appel pour quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu l'an dernier, c'est quelque chose qu'on voit avec Rossellou. Le Real a beaucoup parlé de profil Rossellou. Il n'y aura pas de profil Rossellou parce que Rossellou était un joueur unique, mais là, Gonzalo Garcia et tout ce qu'il apporte, c'était justement ça qui était recherché par le Real.
Merci. Justement, avec toute l'équipe de Tam Sport, on va se marquer d'une courte pause et on reviendra, c'est promis, avec le Real Madrid de Kylian Mbappé. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
21h16, on est ensemble jusqu'à 22h, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Vous voulez réagir avec nous, le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. On parle du Real Madrid, allez, on retourne.
Time Sport. La parole des sociaux.
Coupe du monde des clubs du côté des États-Unis, première édition, la finale le dimanche 13 juillet. Voilà. Et on verra s'il y aura pour la première fois pour cette première édition un sacre. Le premier sacre, à jamais les premiers, du Paris Saint-Germain.
Figurez-vous que le Real Madrid n'a jamais perdu en Coupe du monde des clubs.
Vraiment,
que des victoires et des matchs.
Le Real Madrid, le Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain, ou encore, on a qui, même le Borussia, voudraient remporter cette première édition. On revient. revient sur le Real.
Exactement, sur le débat des collègues, des confrères. Et là, je vais aller plus loin. Moi, c'est le retour aussi de Camavinga. Camavinga qui aura une grande place à jouer pour la saison. Pas peut-être sur cette Coupe du Monde des clubs, je pense que c'est un peu trop tard, mais pour la saison qui arrive, ça va être quelque chose. Arsenal a proposé 90 millions d'euros pour Rodrigo. Le Real de Madrid.
Avec des pincettes, les 90 millions. Hein,
Ils préparent quelque chose. Ils veulent le recruter. Ils veulent le recruter.
90 millions.
Je sais pas s'ils vont l'avoir.
Karim, moi, je vends Rodrigo à 90 millions. Des Clan Rice, des milieux de terrain, des Grealish qui ont coûté 115 millions aux équipes de première ligue. Pour Rodrigo, qui est quand même un joueur très coté au Real Madrid. En plus,
tu penses à 20
millions? Moi, je vends minimum 110-120 millions d'euros.
Moi, je te pense gourmand.
Le Real serait trop généreux.
Moi, je te pense gourmand, Harris, parce que faut oublier aussi ces joueurs-là qui ont valu tant. C'est des transferts intra-première ligue et avec des joueurs britanniques. Donc, on sait que la valeur explose.
Exactement. Il a une cote de Rodrigo, c'est un
malade. En termes de qualité, c'est assez fou. En termes de qualité, Rodrigo, mais aussi, malheureusement, Rodrigo, il vient avec des pour et des contre. C'est-à-dire que les contre, ils sont un peu gros.
Il est jeune encore.
Non, c'est pas là ça le problème. C'est-à-dire que quand moi, personnellement, si je suis Arsenal, est-ce que je vais sur Rodrigo? Je sais pas, parce que j'ai acheté un joueur peut-être à 90, 110.
Bah, comparé à Martinelli.
Ouais, mais je sais aussi que ce joueur-là, au final, sur des grands matchs, il y a des moments peut-être qu'il aura trop d'absence sur des saisons et que ça
peut pas. Rodrigo, sur les grands matchs, il a toujours été là avec le Real Madrid.
Si on fait la comparaison,
le problème, c'est effectivement la constance, la régularité. Est-ce qu'il va passer un cap pour devenir le joueur, la référence sur toute une saison? Il l'a jamais véritablement été avec le Real, mais il a le talent et sur les grands matchs, il a apporté, il a été même au-dessus d'un
Vieux. Le talent, c'est pas une question, mais moi sur les grands matchs cette année, le seul moment où je me dis le grand match où je l'ai vu cette année, ça a été Real Atlético, premier match, allez. En 8ème de Ligue des Champions. Le match où il marque très tôt, il est censé avoir un pénalty très tôt.
Après, il disparaît, mais il faut noter quand même que sur les 6 premiers mois, Rodrigo est le joueur le plus régulier, constant,
le meilleur joueur
fantastique, entre guillemets, des 4 attaquants du Real. Donc, c'est quand même une valeur sûre, rien que pour le contexte première ligue, enchaînement des matchs. Pour Arsenal, c'est vraiment le joueur clé qui.
Après, je pense que si Arteta le recrute, ce sera pas dans un rôle de joueur de côté. Ça va être un joueur axial qui va, il va le faire jouer en soi en faux neuf. Et ce que recherche Arteta, et c'est dans la similitude du jeu de Luis Enrique, c'est le décrochage des attaquants, donc la permutation. Ça veut dire que par exemple, un Rodrigo, tu vas le faire jouer un peu dans l'axe à la Ousmane Dembélé. Il peut aller longer la ligne sur le côté, aller remplacer Bukayo Saka à l'opposé à un autre attaquant. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour Arsenal. Maintenant, dans quelle mesure le mettre en place, parce que lui, il a toujours été un attaquant de côté. Et quand tu me parles de qualité et de talent, ça, indéniablement, il a du talent. Maintenant, il était entouré de qui? Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Vinicius, Carvajal sur son côté qui le guidait, qui le gérait très bien. Moi, je vois l'image, j'étais au Stade de France, je regarde le match, tu vois Carvajal qui parlait énormément avec Rodrigo, il lui disait ça, tu les vois les cadres. Donc oui, c'est question de cadre, mais c'est aussi question de gestion que dans ton groupe. Tu vas arriver à Arsenal, il y aura une concurrence énorme, les gens, ils vont jouer aussi pour eux dans les vestiaires. Là, il est arrivé dans un rôle au Real Madrid, ça jouait pas pour eux, mais tu le voyais, c'était l'étoile montante, on lui a laissé ses matchs, il est rentré, il s'est fait, il est dans lui-même, c'est vrai. Mais là, c'est la première ligue, et la première ligue, tout le monde le veut marquer. Donc maintenant, ça va être très compliqué de le voir dans un... Si, tu le vois.
Ouais. Bah, mais le Real Madrid, c'est une équipe compétitive.
Non, mais c'est pas question de compétitivité, c'est question de nombre d'attaquants. Quand la période où il a joué au Real Madrid, c'est une période où il y avait une hiérarchie. C'était Benzema, Vinicius, Rodrigo ou un autre attaquant. Là, il arrive de par son prix à Arsenal ou en Angleterre, en plus, un prix de gros joueurs face à lui. Parce que s'il reste sur le côté, il y a un concurrent, c'est Bukayo Saka, qui est quand même un gros morceau.
Rodrigo, c'est un joueur qui va évoluer à gauche. C'est pas un joueur. C'est un joueur qui ne joue pas à son poste depuis plusieurs années au Real. Rodrigo, son poste premier, c'est ailier gauche, en fait. Et il est barré par Vinicius au niveau de la concurrence. Et c'est pour ça
droite, il a été incroyable parce qu'il a les deux pieds. Il a les deux pieds, moi je trouve qu'il a les deux pieds. Intérieur, il peut rentrer extérieur.
Voilà. Oui, je sais, mais ailier droit, il peut l'être, mais c'est pas son fort, c'est pas son point fort.
Mais pourtant, pendant 6 mois, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Il joue à droite, après, il joue à gauche.
Après,
à
de toute façon,
je pense que c'est une question de forme. J'ai fini Mbappé,
c'est aussi question de profil de jeu. C'est question de profil de jeu. C'est que c'est quand t'as les deux pieds, tu peux jouer des deux côtés, tu peux être intéressant. Tu l'as vu avec plusieurs joueurs.
Moi, je l'ai trouvé trop timide à droite.
Moi, je vois pas une grosse différence à droite à gauche parce que le match. Tout bête, on va prendre un exemple d'il y a deux ans, on monte à très loin.
Alors,
quand il rentre contre City, il joue pas à gauche.
Mais il joue pas à droite non plus. Hein. City, c'est un peu un micmac.
Il joue un micmac, mais il joue pas à son poste. Et pourtant, il utilise ses qualités.
Après, ouais, c'est un joueur qui n'a jamais eu de poste fort non plus.
C'est
un joueur qui n'a jamais eu de poste fort non plus. Parce que quand il est formé, quand il arrive au RAD, on nous dit ok, d'accord, c'est un ailier gauche. Quand il arrive, vu qu'il y a Vinicius à gauche, du coup, il joue à droite. Mais on nous dit aussi, voilà, c'est un joueur qui est capable de jouer neuf.
C'est un joueur hybride.
Il a des
caractéristiques
de hybride,
il peut jouer par
sûr.
Ouais, bien sûr.
Tu peux le voir comme ça, mais après, ce qui est compliqué avec Rodrigo, au final, c'est pas où est-ce qu'il va jouer. C'est est-ce qu'il va jouer dans le sens où à quel moment, en fait, il va vraiment être régulier sur son niveau de jeu, etc. C'est plutôt ça qui est compliqué avec Rodrigo. C'est plutôt ça qui est compliqué de savoir. Parce qu'au final, qu'il joue à gauche, il a déjà joué à gauche au Real, mais c'est pas parce qu'il joue à gauche que c'est une assurance, ok, il va bien jouer. Qu'il joue à gauche, qu'il joue à droite, qu'il joue devant, qu'il joue en 10, qu'il se soit hybride ou pas. Le problème, c'est qu'il peut s'éteindre comme il peut être la flamme du match, comme il peut être de l'ombre dans le match. C'est ça le problème de Rodrigo.
Tu sais le contexte, c'est le problème de Rodrigo. Moi, je vais te l'expliquer. C'est que,
alors, vas-y, va nous l'expliquer.
C'était un joueur qui était une étoile montante qu'on n'a pas su policher, qu'on n'a pas su faire briller. Il est arrivé, Vinicius était super, super bon la saison où il devait gagner le Ballon d'Or. La saison où il y a Benzema, il n'est pas légitime en fait d'être un gros. Là, cette année, il fait quand même une bonne saison. Enfin, l'avant dernière saison de Ancelotti, il fait une superbe saison. Et pourtant, je parle de Rodrigo.
L'avant dernière saison d'Ancelotti en 23-24, c'est un joueur qui est très mythique, qui n'est pas dans le top 30 du Ballon d'Or et qui manque de poids.
Il est bon. Il est pesant dans le match.
Après, on l'a ressorti à ce moment-là, à son meilleur niveau.
Arrêt, c'est l'historien de Madrid.
Dans le 4-4-2, d'Ancelotti sur cette saison-là, il joue aussi un rôle de neuf comme Vinicius. Et du coup, ils avaient l'axe pour tous les deux, l'attaque pour tous les deux.
On va terminer sur le Madrid, sur Real.
Et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'à un certain moment, il y a même Valverde qui le remplace sur le côté, qui marque énormément. Et Ancelotti le challenge énormément. Donc, oui, c'est vrai qu'il n'avait pas cet aspect-là, mais il y avait ce duo Vinicius-Rodrigo qui était très intéressant. Et c'est pour ça, en fait, que je te parle pas de profil où il va jouer. Il peut jouer partout. C'est un joueur qui peut jouer partout. Et c'est ce que recherche Arteta. Après, lui, il y a des rumeurs d'après les médias anglais, c'est Gyökeres qui pourrait aussi arriver. Donc ça veut dire que.
Non, mais il sera à gauche, clairement.
Donc il sera à gauche aussi.
Rodrigo, s'il quitte le Real, ça sera pour jouer à gauche.
Ouais.
Vraiment, factuellement.
Et moi, je suis d'accord. Et je pense que de toute façon, dans le calcul, on parle beaucoup d'Arsenal, mais en vrai, il ne faudrait pas non plus oublier Manchester City. À mon avis.
Bon, les gardes aussi. T'inquiète pas. On va reprendre la saison. Ils sont au rendez-vous, les hommes de Pep Guardiola. On termine Madrid avant de retrouver le football amateur.
Avec les confrères, Bilal, c'est que les quarts de finale vont nous offrir la confrontation entre les deux frères, Jude Bellingham et Jobe.